L'actu des Alpes du Sud et un chat victime d'un tir à la carabine à la Bâtie-Neuve.
44 bouts de plomb ont été retrouvés dans le corps de l'animal, un temps entre la vie et la mort vendredi dernier. En colère, la propriétaire de l'animal témoigne sur Alpe 1.
Un an de prison ferme pour un homme de 28 ans pour violence conjugale.
Il s'est rendu coupable, selon le tribunal de Digne-les-Bains, hier de coups sur sa compagne sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Des faits qui se sont produits samedi à Villeneuve.
Les impôts avec la campagne pour ceux sur les revenus 2020. Qui a débuté.
Parmi les nouveautés cette année, le barème de l'impôt qui a été revalorisé pour tenir compte de l'inflation. L'an passé, 114 millions d'euros ont été collectés dans les Alpes de Haute-Provence, un peu plus de 100 millions dans les Hautes-Alpes.
Une réunion publique à Puy-Saint-Pierre pour évoquer l'avenir du centre-village.
Elle est prévue à 17h samedi à la salle des fêtes. Comme annoncé lors des vœux 2025, la commune souhaite réaliser des aménagements simples et évolutifs pour mieux mettre en valeur le site.
Et puis en sport, c'est l'organigramme des Rapaces de Gap qui a été dévoilé hier.
Luciano Basile, annoncé un temps en tant que manager sportif depuis des mois, va finalement occuper une double casquette. Manager sportif, bien sûr, mais aussi coach principal. Un chat criblé de plomb à la Bâtie-Neuve. Loki, jeune chat de 4 ans, stérilisé et identifié, a été retrouvé par sa propriétaire avec 44 impacts de plomb dans le corps. Il a été amené d'urgence vendredi dernier à une clinique vétérinaire de Gap. Aujourd'hui, Charlotte, sa propriétaire, témoigne. Reportage d'Aurore Valory.
C'est Loki. Il a quelques plombs qui tombent. Bon, là, on sent bien les plombs quand on caresse la tête.
C'est vraiment le chat gentil, qui va vers l'humain, qui fait des câlins.
C'est la consternation pour Charlotte. Son jeune chat Loki, lui si sociable et câlin, est revenu à son domicile, quartier des Césarées, à la Bâtie-Neuve, avec 44 plombs dans le corps. C'est la maman de la propriétaire de Loki qui a donné l'alerte vendredi dernier.
Moi, j'étais au travail en fin de journée et j'ai ma maman qui m'a téléphoné, qui me dit « Écoute, Charlotte, il y a un problème. Loki vient de rentrer à la maison, il marche bizarrement. J'ai l'impression qu'il a du cambouis sur lui. » Elle me dit « Je sais pas si c'est pas pris une voiture. »
Immédiatement, elle contacte un vétérinaire. Le chat est amené en urgence et le verdict tombe.
Ils pensaient, eux, au départ, que c'était peut-être un coup de patte de brebis. Et en fait, quand ils ont commencé à vérifier son état, ils ont senti un peu des espèces de petites boules à certains endroits. Et donc, ça les a alertés. Ils ont fait une radio. Et là, on a découvert donc, qu'il y avait 44 plombs dans son corps.
Pour la jeune femme, c'est l'incompréhension. Elle vit dans le quartier depuis 18 ans et a toujours eu des animaux.
J'en ai discuté beaucoup avec mes voisins qui sont tous des chasseurs, avec qui je m'entends très bien, qui sont effarés par ce qui s'est passé. Et donc, ils en ont déduit, eux, qui connaissent les armes de chasse, que ce serait ce qu'ils appellent une carabine de jardin. Il faut un permis pour pouvoir les utiliser, mais avec donc une cartouche qui comporte beaucoup de plomb. Et donc, c'est courte distance. Donc, la personne qui lui a tiré dessus l'a vu. Il savait que c'était un chat, il n'y a pas de doute possible là-dessus. C'est des plombs à dispersion, donc pour qu'il en ait 44, c'est qu'il était quand même relativement proche de son tortionnaire.
Les radios montrent que le petit félin a été touché principalement au niveau de la tête. Si son pronostic vital a été un temps engagé, précise sa propriétaire, par chance, aucun organe vital n'a été touché. Aujourd'hui, Loki va mieux, mais son suivi sera long. Le jeune chat ne voit plus du tout de l'œil gauche.
On pense que c'est quelqu'un qui en a marre des chats. Bon, au point d'aller leur tirer dessus quand même, c'est grave. Personne ne comprend ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Tout le monde est choqué de la violence, en fait, de l'acte. La personne qui lui a tiré dessus l'a regardé droit dans les yeux. Donc, pour moi, c'est très, très compliqué à accepter. Et ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de colère et de la peur, forcément, hein, puisque donc on a d'autres animaux. On les a confinés dans la maison.
Une plainte a été déposée par Charlotte, une enquête est ouverte. Elle est conduite par la communauté de brigades de Chorges, appuyée par la brigade environnement d'Embrun. Les faits sont pris au sérieux, précisent les forces de l'ordre. La municipalité de la Bâtie-Neuve a également été avertie et a apporté son soutien à la famille. Une municipalité qui a signé tout récemment une convention de stérilisation avec le refuge Chaleureux. Elle court jusqu'en 2028. Tous les chats errants de la commune vont donc être stérilisés et identifiés.
Merci Aurore. Notez que selon la loi, le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Un an de prison ferme pour un homme de 28 ans.
Il s'est rendu coupable, selon le tribunal de Digne-les-Bains, hier, de coups sur sa compagne sous l'emprise de l'alcool le 19 avril dernier à Villeneuve, soit samedi. Au moment des faits, il était aussi positif au cannabis et à la cocaïne et sous le coup d'un sursis probatoire à la suite d'une condamnation par le tribunal de Draguignan en juillet 2024 pour violence conjugale. Le parquet avait requis 10 mois de prison avec maintien en détention et interdiction de contact de 3 ans avec la victime, selon le Dauphiné libéré.
Et nous revenons ce matin sur la disparition du pape décédé ce week-end, Pascal.
Nous accueillons ce matin Monseigneur Xavier Mal, qui a rencontré à plusieurs reprises le pape François. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque de Gap et d'Embrun depuis 2017. Votre dernière rencontre avec le pape date de décembre dernier, mais vous l'aviez rencontré le 23 septembre 2023 à Marseille. Vous vous souvenez, il était venu présider une messe au stade Vélodrome. Vous y étiez, vous l'aviez rencontré lors de son séjour dans la cité phocéenne. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre avec le pape François? Dans quel cadre s'est-elle effectuée?
Alors effectivement, c'est la rencontre la plus marquante hein, pour moi du pape François, puisque j'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc c'était à Marseille, et parmi toutes les rencontres à Marseille, puisqu'à Marseille, s'il est resté une grosse journée, on l'a rencontré plusieurs fois, ce qui m'a le plus marqué, c'était la prière à Notre-Dame de la Garde pour les migrants morts en mer et en montagne. Parce que le cardinal Jean-Marc Aveline avait accepté que je vienne avec une délégation, une douzaine de hauts alpins. Alors il y avait des personnes qui venaient de la commission de la pastorale des migrants de Gap, du réseau hospitalité de Gap et de refuge solidaire de Briançon. Donc nous étions une dizaine et l'objectif pour moi c'était de un peu de remercier tous ces solidaires qui se dévouent, j'allais dire jour et nuit, au service des plus pauvres qui passent par nos montagnes. Et donc cette rencontre pour eux, je pense, a été très marquante. Ils étaient à 5 mètres du pape, vous voyez.
Est-ce que le prochain pape sera autant engagé sur ce sujet des migrants que le pape François?
Alors je pense que oui, parce que le phénomène n'est pas un phénomène d'une part qui date du pape François, mais qui, on pourrait dire, a explosé au moment du pape François, avec la fameuse crise migratoire de 2015 en ce qui nous concerne, nous. Mais c'est un phénomène qui est mondial, qui est sur tous les continents. Et tous les spécialistes nous prédisent que la chose va s'amplifier, notamment par le dérèglement climatique. Quand un pays devient invivable, et j'ai eu la joie d'aller en Afrique pour jumeler le diocèse de Gap avec le diocèse de Dassazoumé au Bénin, il y a des moments dans ce pays où c'est vraiment très difficile au niveau de la température, vous voyez. Et donc il y a des pays encore plus chauds que le Bénin. Donc on imagine bien que toutes ces personnes cherchent une vie meilleure et ne cherchent pas, contrairement à ce qu'on dit, à nous envahir, etc. C'est pas du tout ça, c'est simplement soit pour fuir des violences, soit pour chercher une vie meilleure, et on le comprend. Donc les papes forcément, les papes successifs et dans les décennies à venir seront amenés à continuer à défendre la dignité des plus pauvres et donc la dignité des exilés, oui.
Merci Monseigneur d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Alpe 1.
43% des ménages bas-alpins ont été imposés sur leurs revenus l'an dernier, 42% dans les Hautes-Alpes.
Depuis le 10 avril dernier, la campagne de déclaration pour les revenus 2024 a débuté. Les déclarations papier pourront être déposées jusqu'au 20 mai. Pour celles en ligne, ce sera jusqu'au 22 mai, 23h59. L'an dernier, l'impôt sur le revenu a représenté plus de 114 millions d'euros dans les Alpes-de-Haute-Provence, un peu plus de 100 millions dans les Hautes-Alpes. De nouveauté, cette année, le barème de l'impôt a été revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Renaud Roussel, directeur départemental des finances publiques dans les Hautes-Alpes.
De 1,8%, donc la réévaluation du barème de l'impôt, qui correspond à l'inflation constatée dans notre pays. Ça veut dire que quelque part, ce barème-là tient compte du lien qu'il y a entre l'inflation et la hausse des revenus, pour éviter que des gens se retrouvent imposés sans qu'il y ait un pouvoir d'achat qui ait été amélioré compte tenu de l'inflation.
Autre nouveauté qui pourrait contribuer à la paix des ménages, pour les couples mariés ou pacsés, le taux individualisé de prélèvement à la source sera automatique. Une mesure portée par la députée Marie-Pierre Rixin qui permet de prendre en compte les différences de revenus entre les membres d'un couple. Stéphane Durand, directeur départemental des finances publiques dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Jusqu'à maintenant, le principe était un taux de prélèvement uniforme pour le couple et sur option, chacun ou chacune des deux personnes pouvait demander à avoir son propre taux. Désormais, c'est l'inverse. Chaque membre du foyer fiscal aura son propre taux de prélèvement à la source et sur option, le couple pourra demander à avoir un taux commun.
Mais qu'il n'y ait pas de calcul qui soit fait, des calculs d'apothicaire entre chaque membre, de toute façon, à la fin, le ménage paiera le même montant d'impôt.
Vous avez complètement raison, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Les modalités de prélèvement peuvent être différentes entre un taux uniforme ou un taux propre à chacun des membres du foyer fiscal. Par contre, la cotisation d'impôt en fin d'année sera exactement le même à l'euro près. Hein. Donc, qu'il n'y ait pas de, il n'y a pas de majoration de cotisation ou de prélèvement sur le sujet.
Les Alpins du Sud déclarent à 60% en ligne. Ce sont les champions du civisme fiscal. Plus de 98% des Bas-Alpins respectent leurs obligations déclaratives. Ils sont plus de 99% dans les Hautes-Alpes. Enfin, les services des finances publiques ont évité pratiquement 200 000 euros de fraude fiscale l'an dernier dans les Hautes-Alpes et plus de 270 000 euros dans les Alpes de Haute-Provence.
Une réunion publique à Puy-Saint-Pierre pour évoquer l'avenir du centre-village.
Elle est prévue à 17h à la salle des fêtes samedi, comme annoncé lors des vœux 2025, la commune souhaite réaliser des aménagements simples et évolutifs pour mieux mettre en valeur le centre-village. Après une présentation dans la salle, les habitants seront conviés à se rendre sur le site par le maire de la commune, Vincent Faubert. Il est au micro de notre correspondant Ange Daly.
On a la chance à Puy-Saint-Pierre d'avoir autour de notre église qui domine les vallées briançonnaises, d'avoir voilà, un patrimoine et un point de vue absolument exceptionnel et remarquable. Malheureusement, aujourd'hui, la place de l'église ne bénéficie pas d'aménagements vraiment qualitatifs pour permettre un bon accueil et des habitants et de nos visiteurs. Et surtout, la place de l'église sert essentiellement de parking, donc est assez envahi par les véhicules. Donc notre démarche est assez simple, on est parti de constats, on a observé, on a écouté et entendu ce qu'ont pu aussi nous dire les riverains qui habitent ce hameau. Et voilà, donc l'idée c'est simplement de raménager l'existant, de faire un lifting sur la place de l'église et d'essayer de rationaliser le stationnement de sorte à pouvoir libérer de l'espace pour d'autres usages, notamment les espaces dédié à la convivialité lorsqu'on organise des animations ou des festivités.
Le maire évoque aussi une réduction de la route départementale qui traverse le village pour le confort des piétons, la création d'un monument aux morts, le réaménagement de l'ancienne cabine téléphonique ou encore la réhabilitation de la fontaine du chef-lieu. Le maire promet un budget pas élevé envers les habitants, 15 000 euros simplement pour l'aménagement non goudronné de la place par exemple. En bref, la route départementale 1075 qui relie Sisteron à Grenoble, fermée à la circulation à deux endroits cette nuit dans les Hautes-Alpes. Les travaux de modernisation du pont de Pierre à Serres et du pont du Rose à Saint-Julien-en-Beauchesne touchent à leur fin. Entre 22h ce soir et 6h demain matin, les équipes du département doivent réaliser les revêtements définitifs. Les déviations sont à retrouver sur alpe1.com.
Et puis on connaît l'organigramme des rapaces de Gap. Il a été dévoilé hier pour la saison prochaine.
Luciano Basile, arrivé à distance en novembre dernier en tant que manager sportif, prendra la saison prochaine une double casquette, manager sportif et coach principal. C'est donc le retour du sorcier sur un banc haut alpin. Sur notre antenne, il se disait prêt à occuper cette fonction pour permettre au club d'économiser un salaire. L'Italo-Canadien sera assisté dans ses fonctions par Sébastien Roa, nommé assistant coach Magnus, Mika Perez, head coach pour le centre de formation et enfin de Jeff Bata, entraîneur des gardiens et assistant coach du centre de formation. Quant au poste de manager administratif, il doit être avancé dans la journée par le club. Un Marseillais passé dans des postes de direction de club de rugby est notamment pressenti.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.